Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, c'est Bretagne 5 matin, on est là jusqu'à 10h et pour l'instant, eh bien, il est 8h31.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Dominique Ramard, il est président du syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor, il est également maire de Saint-Juvat, jolie commune des Côtes d'Armor, il est venu jusqu'à nous au micro de Bretagne 5 ce matin pour être en direct dans la matinale, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler ce matin d'énergie essentiellement et un petit peu de politique autour de cette crise de l'énergie que l'on vit aujourd'hui, crise qui est engendrée entre autres par deux facteurs, mais vous pourrez y répondre Dominique Ramard, à savoir cette guerre en Ukraine, en tout cas autour du gaz, hein, et ces restrictions de gaz puisqu'on n'est plus livré par la Russie ou très peu, et puis également cette crise de l'électricité cette fois-ci parce qu'on a moins de production en France, il y a des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, ça pose un problème, j'allais presque dire historique.
Bah effectivement, c'est un contexte particulier, puis qu'on n'avait pas vu venir comme ça. Hein. Enfin, effectivement, juste après la crise du Covid, il y avait déjà eu quelques tensions sur les marchés de l'énergie parce que la reprise économique avait fait qu'il y avait une forme de pénurie qui pouvait apparaître. On l'a entendu sur les semi-conducteurs, mais c'était le cas aussi sur les matières énergétiques. Et puis, bah forcément, la crise en Ukraine, donc avec l'invasion par la Russie, est venue en rajouter une couche, malheureusement. Donc des tensions là sur le marché du gaz. Et comme le marché du gaz et le marché de l'électricité sont reliés, ça a aussi une conséquence sur le prix de l'électricité. Avec une gestion des marchés au niveau européen qui n'était pas forcément adaptée à cette situation. On gérait plutôt des excès de production par le marché européen, alors qu'aujourd'hui, il faut gérer des pénuries. Et ça, en fait, le marché n'est pas adapté. En tout cas, les modes de régulation ne sont pas du tout adaptés.
Et là, on ne peut pas acheter et vendre de l'électricité, par exemple, ou du gaz aussi facilement qu'avant, puisque là, justement, tous les pays européens sont concernés.
Voilà, donc de fait, il y a eu d'abord des concurrences. Hein. Par exemple, il y a eu des anecdotes avec des bateaux de gaz, notamment gaz de schiste en provenance de l'Amérique du Nord, qui étaient détournés à l'approche des ports européens. Il suffisait que les Chinois donnent un peu moins que les Européens, et hop, le bateau pouvait aller vers Montoire, par exemple. Donc on voit bien que cette tension sur les marchés et sur les approvisionnements, donc là c'est sur le gaz, mais sur l'électricité, on a aussi la même chose. Et vous le disiez tout à l'heure, le fait qu'on soit aujourd'hui avec une production plus faible qu'à la normale, avec 32 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt, bah forcément ça crée aussi des tensions là, du côté de la production.
Alors avec aussi un été qui a été très sec, cet été caniculaire, on a vu cette partie, j'allais presque dire très visible de cette canicule, à savoir les incendies, ces énormes incendies, mais il y a eu aussi ce manque d'eau et ça a aussi pénalisé la production d'électricité hydraulique.
C'est vrai, alors on n'est pas trop concerné en Bretagne, aujourd'hui pas de baisse de la production hydroélectrique qui est quand même assez minimale donc, en Bretagne, mais effectivement dans les régions donc montagneuse, où une grosse partie de la production d'électricité renouvelable est faite à partir des barrages, moins d'eau dans les retenues, donc moins d'eau à turbiner et donc moins d'électricité produite. Donc effectivement aussi tension de ce côté-là. Moi ce que je retiens, c'est qu'on voit bien que si on veut gagner en autonomie donc vis-à-vis de la question énergétique, il va falloir produire plus sur nos territoires. Donc certes, il y a des centrales à l'arrêt, il y a des difficultés de production en hydroélectricité, mais je pense que le développement des énergies renouvelables est aujourd'hui indispensable.
Alors on le voit, ce développement des énergies renouvelables ici en Bretagne, avec les éoliennes. Alors ça ne fait pas toujours l'unanimité. On voit le problème des éoliennes en baie de Saint-Brieuc, mais aussi des éoliennes à terre, hein, qui sont parfois mal acceptées par les riverains. On voit aussi le photovoltaïque qui se développe beaucoup. Et puis la méthanisation. Alors là aussi, la méthanisation ne fait pas forcément toujours l'unanimité. Mais il y a des moyens de production. Il va falloir les développer, mais il va falloir aussi préserver une forme d'environnement et de dialogue avec, bien par exemple, les riverains des éoliennes.
Donc, bien évidemment, mais je trouve que ce qui apparaît là, c'est que l'électricité, le pétrole, le gaz, quand c'était produit loin de chez soi, finalement, on oubliait très vite comment c'était fait. Moi, aujourd'hui, je suis touché même, je dirais presque personnellement, par ce qui se passe en Ukraine. Le gaz russe, tant qu'il n'y avait pas le conflit, on s'en moquait. Mmh. Maintenant, quand on sait que c'est du gaz qui finance un régime qui fait la guerre au bout de l'Europe, là, c'est plus la même chose.
Il y a aussi un problème éthique, presque.
Ah oui, oui, moi, je le positionne vraiment sur ce champ-là. Sur le pétrole, la même chose doit aussi être posée. Aujourd'hui, quand on achète du pétrole au Moyen-Orient, ben là, il y a une question quand même qui se pose. Et puis, si on reste sur le gaz de schiste, qui était quelque chose qu'il fallait absolument dénoncer il y a encore quelques mois, maintenant ben, que forcément le gaz russe n'est plus accessible, ce gaz de schiste produit quand même avec des pratiques sur le plan environnemental qui sont très discutables, bah là tout de suite, il est moins sale qu'il n'était avant. Donc moi je pense que vraiment aussi il faut qu'on se dise que vis-à-vis de l'énergie, on ne peut plus en fait confier la production loin de chez nous dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et donc forcément ça veut dire de la production chez nous, donc du biométhane, donc avec les méthaniseurs, de l'électricité renouvelable avec des éoliennes, avec du photovoltaïque. Et donc, ça veut dire accepter quelques désagréments, mais aussi, grâce à la concertation, grâce au dialogue au niveau du territoire, des modalités qui restent à définir, et donc veiller à ce que ça ne se fasse pas au détriment des populations et de l'environnement chez nous.
Alors, on voit le retour en force aussi du nucléaire. Alors, même si on le disait en commençant, les parcs sont aujourd'hui, enfin, en tout cas, les réacteurs, quelques réacteurs sont à l'arrêt. Voilà, donc ça fait partie de la vie de ces réacteurs. Est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire? C'est la grande question aujourd'hui. Ou au contraire, est-ce qu'il faut renouveler ce parc nucléaire pour ne pas risquer de manquer d'électricité?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte, on ne peut pas dire c'est ça ou ça. En fait, ça sera vraiment le nucléaire et les renouvelables. Mmh. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'unanimité est presque en train de ressortir. Même les Allemands, qui sont clairement anti-nucléaires de manière historique, eux, aujourd'hui, reconnaissent que le nucléaire, dans la période de crise, est quelque chose d'indispensable. Donc je pense qu'en France, il va falloir effectivement continuer à mixer notre production énergétique et donc d'avoir et du nucléaire et de l'électricité d'origine renouvelable et aussi se dire que on ne sera pas vers le tout électrique. Même si on va vers une électrification de notre modèle énergétique, on continuera à avoir besoin d'autres énergies et notamment, moi je crois fortement au développement du biogaz dans des régions comme les nôtres.
Alors avec aussi une demande exponentielle en énergie, alors on va pas faire le tour de tous les pays, mais en fait, en France, aujourd'hui, on a tous notre téléphone mobile, notre box, et que sais-je encore, qui sont presque toujours 24 heures sur 24 connectés au réseau, et puis avec ces petites diodes rouges ou vertes ou bleues parfois, ça consomme tout cela. Est-ce qu'il va falloir aussi qu'il y ait quelque part une forme de pédagogie sur l'utilisation de l'électricité?
Ben effectivement, là on a parlé production, l'autre levier, l'autre volet de la transition énergétique, je dirais même de la bascule énergétique qu'on va vivre, c'est de modifier nos habitudes de consommation. Donc effectivement, l'appel à la sobriété, maintenant la sobriété n'est plus un gros mot, on peut dire sobriété.
Ça a été un peu contesté dans la voix du président de la République, mais ça c'est autre chose.
Oui, mais je pense que c'est un terme où effectivement on fait le lien avec une autre sobriété, là plutôt du côté des boissons. Mais on va trouver d'autres termes, ça va venir. Mais en tout cas, l'idée de moins consommer, en tout cas d'être plus autonome sur ses choix de consommation, donc des fois de moins consommer, de ne pas consommer aussi, il y a des usages qu'on peut éviter. Bon, tout ça, tous ces petits gestes, ils vont compter. Bien sûr, les petits gestes, ça ne marche que si on est nombreux à les faire. Et donc, il y a une forme aussi d'émulation qu'il va nous falloir créer. Et donc, par exemple, au niveau du syndicat départemental d'énergie, on a signé la semaine dernière avec RTE, Réseau Transport d'Électricité, une charte qu'on appelle EcoWatt. Donc maintenant, le dispositif commence à être connu.
On l'a vu hier soir à la télévision.
Effectivement, maintenant, il y a la météo EcoWatt. Donc vous saurez les uns les autres si on est en situation de tension en termes d'approvisionnement électrique sur le réseau. Et donc, il y aura une invitation sur le 8h-13h et le 17h-20h à diminuer ses consommations de façon à ne pas trop solliciter le réseau du fait du manque de production. Et donc on voit bien là que ces petits gestes, donc pour cet hiver, pour en gros qu'on puisse passer la difficulté d'équilibre entre production et consommation, ça va être indispensable. Et j'espère que cet hiver, ça sera aussi l'occasion de prendre de bonnes habitudes, de moins consommer, de moins gaspiller.
D'autant qu'à 19 degrés, on vit très bien. Voilà, faut quand même le dire. Il y a aussi la météo, alors cette fois-ci, la météo du ciel au-dessus de notre tête, qui peut jouer quand même. Parce que si on avait un hiver très froid, comme on a eu un été très chaud, ça pourrait impacter le réseau gravement, en tout cas la distribution d'électricité.
Alors RTE, donc Réseau Transport d'Électricité, qui gère le réseau de transport d'électricité.
Voilà, les grands pylônes à haute tension.
Voilà, hein. En gros, les lignes à 250 000, 400 000 volts sont gérées par RTE, donc c'est ce qui nous approvisionne, puis après il y a une diffusion sur le territoire. RTE est en charge de l'équilibre donc, électrique au niveau national. Et donc là, il y a eu plusieurs alertes hein, déjà de lancer, donc là du côté plutôt des décideurs. Depuis l'été, on nous dit effectivement la faiblesse de production, le risque aussi d'avoir un manque de soutien donc, au niveau du réseau en cas de période de grand froid fait craindre donc, des ruptures d'approvisionnement. On parle de baisse de tension à passer de 220 à 200 volts sur le réseau de distribution. Peut-être aussi jouer sur certains donc, avec des engagements donc, de collectivités ou d'industriels, donc on appelle ça des effacements. On ne consomme pas à certains moments de la journée. Et puis également donc, on parle de délestage. Donc ça faisait des années qu'en Bretagne on ne parlait pas de délestage, mais il pourrait y avoir des coupures localisées sur des périodes d'environ 2 heures de façon à soulager le réseau. Donc ça, il faut qu'on s'y prépare, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on ne maîtrise pas la météo, donc ça nous rappelle aussi que nous sommes dépendants des éléments naturels, et en cas de grand froid, on peut en arriver là. Tous les petits gestes qu'on évoquait tout à l'heure, avec notamment EcoWatt, peuvent être utiles. Un exemple du côté des collectivités, on va travailler à ce que du côté de l'éclairage public, c'est symbolique, hein, c'est une consommation bon, qui représente à peu près 15% de la facture d'électricité des communes costa-armoricaines, c'est déjà ça. Si on se dit, ben, on n'allume pas un soir parce que RTE nous a dit, ben, là attention, on n'a pas forcément d'électricité pour tout le monde, ben, il vaut mieux éteindre l'éclairage public plutôt que de mettre soit des entreprises, soit des ménages sans électricité, avec des besoins qui sont en tout cas pour moi plus utiles, plus essentiels, pour reprendre un terme célèbre désormais.
Alors justement, ces petites économies au niveau des collectivités, alors parfois c'est difficile. Je disais en commençant que vous êtes maire de Saint-Juvat, Dominique Ramard. Comment ça se passe à Saint-Juvat? Vous éteignez l'éclairage public? Vous avez des petits gestes, ne serait-ce qu'au niveau des bâtiments municipaux, par exemple?
Comme la plupart des communes costa-armoricaines, du côté de l'éclairage public, on a déjà fait d'énormes efforts. Enfin, en tout cas, moi, je ne prends pas ça comme un effort, mais quand j'en parle avec des collègues d'autres régions qui laissent encore les lampadaires allumés en cœur de nuit. Nous, en Côte d'Armor, personne aujourd'hui se rappelle avoir vu des lampadaires allumés en cœur de nuit, hormis quelques axes où, pour des questions de sécurité routière notamment, il est important de maintenir cet éclairage. Mais en gros, la règle quasi générale en Côte d'Armor, c'est qu'on éteint l'éclairage public en cœur de nuit. Aujourd'hui, on a même réduit cette période d'éclairage maintenant. Par exemple, moi, dans ma commune, à 21h, les lampadaires s'éteignent. Avant donc, les confinements, on était sur plutôt 21h30, 22h. On adapte aussi en fonction, donc, par exemple, du passage des bus scolaires. On adapte en fonction de la présence ou de l'ouverture des commerces. Donc voilà, il ne s'agit pas non plus de dire on va tout éteindre parce qu'il n'y en a plus besoin. Non, il y a encore besoin de cet éclairage public, mais ramenons-le donc, vraiment à la réalité de ce besoin. Et donc ça, c'est une économie intéressante. Elle est surtout aussi à vocation pédagogique. Après, un autre volet important pour les collectivités, 80% de nos consommations d'énergie, ce sont les bâtiments. Et donc, c'est vraiment sur ce vecteur-là qu'il faut actionner donc, plusieurs actions. On a, nous, aujourd'hui, avec un certain nombre de collectivités, fait des audits énergétiques, fait des bilans, donc des diagnostics de la consommation de nos bâtiments. On est capable de dire, sur ce bâtiment, il y a des marges de manœuvre. Des fois, c'est simplement modifier les usages, convaincre les usagers de changer aussi leur comportement, aussi bien agents, élus que donc citoyens. Et puis on a d'autres actions qui sont un peu plus importantes, avec des petits équipements de programmation, de détection de présence, ou encore là des travaux d'amélioration énergétique, isolation, changement des modes de chauffage.
Oui, parce qu'on voit certaines communes ou certaines villes parfois qui ont un patrimoine vieillissant de bâtiments publics qui, pour plein de raisons, parfois budgétaires, n'ont pas été rénovés, n'ont pas été isolés. Est-ce que à un moment ou à un autre, il faudra réclamer, alors on réclame beaucoup de sous à tout le monde en ce moment, mais réclamer une aide de l'État pour pouvoir refaire ces bâtiments parfois, ou les isoler ou les modifier?
Alors, moi, je sais pas, j'ai dû être éduqué, élevé comme ça. Avant d'aller demander, j'essaye de voir d'abord ce que je peux faire moi-même.
Moi, je parlais surtout pour les communes qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Je transpose cette attitude, donc y compris dans mon mandat d'élu. Et puis, j'essaye même de partager donc, avec les collègues cette approche-là. C'est que, on va parler sans doute de l'évolution des prix de l'électricité et du gaz. Donc, c'est clair que nos budgets dans nos communes vont être plus compliqués à boucler. Il va falloir qu'on maintienne quand même une capacité à investir. Et moi, je pense que maintenant, la priorité des priorités en termes d'investissement dans les collectivités doit être tournée vers la diminution des consommations d'énergie, maîtrise des consommations actuelles et aussi éviter de rajouter des consommations parce que nous n'aurons pas forcément les moyens de payer les factures. On en est presque là dans certaines communes.
On a des maires qui, alors parfois de façon très symbolique, dans quelques villes françaises, ont dit « Nous, on arrête, on ne paie pas notre facture. » Bon, c'est pas peut-être pas très bien, c'est peut-être pas très citoyen, mais on imagine qu'il y a une détresse aussi au niveau budgétaire, une alerte.
Oui, alors des fois ils le décident, certains ne pourront même pas le décider parce qu'ils ne pourront pas payer. Enfin, il faut vraiment qu'on se rende compte. Alors c'est pas le cas, heureusement, encore en Bretagne, en Côte d'Armor. D'une part parce que le syndicat départemental d'énergie achète le gaz pour une grosse partie des communes. Et on a acheté le gaz qui aujourd'hui est fourni donc dans les communes qui ont besoin de cette énergie, on l'a acheté il y a 2 ans. Donc on est avec les tarifs donc d'il y a 2 ans en dessous de 20 euros du mégawattheure.
Voilà, ça amortit un peu cette hausse des tarifs.
Mais le marché en cours, il se termine fin d'année 2023. Donc durant l'année 2023, on va devoir nous lancer une consultation pour acheter du gaz pour les années qui suivront. Et si on l'achète par exemple au prix actuel, en fait aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, on était à 164 euros du mégawattheure. Vous voyez, aujourd'hui, on paye à moins de 20 euros et en fait, on est à 164 euros là sur le marché. Donc, si je devais acheter aujourd'hui du gaz pour l'an prochain, voilà, c'est x8. Hein. Mmh. Donc, pour une collectivité, ça ne passe pas. Et pour l'électricité, on est déjà dans le dur parce qu'on achetait en gros à 50 euros du mégawattheure il y a 1 an et demi. En ce moment, sur les marchés, on est à plus de 500 euros du mégawattheure, x10.
Est-ce qu'il faudrait imaginer à terme, après cette crise, elle prendra bien fin à un moment ou à un autre, on sait que l'énergie va continuer à augmenter, mais est-ce qu'il faudra imaginer des mécanismes pour amortir justement, on ne pourra pas continuer ad vitam aeternam à augmenter l'énergie, on sera obligé de s'en passer pour de bon cette fois-là, et c'est impossible. Est-ce qu'il faudra imaginer des mécanismes sur les marchés, par exemple, de l'énergie pour réguler, pour comprendre, pour aussi peut-être jouer un peu les gendarmes?
Oui, moi je pense maintenant, là on voit bien là, les discours au niveau national ou européen sont très clairs là-dessus. Les marchés aujourd'hui réagissent trop vivement aux aléas donc géopolitiques ou même des fois d'accès à des gisements énergétiques ou de fait là aussi avec l'absence de production. On ne peut pas continuer à gérer donc ce bien essentiel qui est l'énergie de cette manière-là. Donc il y aura des interventions. Par exemple, quand on dit maintenant taxer les super profits des grandes entreprises énergétiques, bah, ça veut bien dire qu'on considère qu'il y a une rente là qui n'est pas normale. Mmh. Il y a une captation par la puissance publique pour pouvoir l'affecter à des amortisseurs qu'on appelle bouclier énergétique, bouclier tarifaire. L'autre volet pour moi, c'est qu'il va falloir qu'on sépare le marché de gros. Donc effectivement, si les acheteurs et donc producteurs veulent en fait s'affronter et déterminer un prix pour le prix de gros et notamment le dernier mégawattheure utile, pas de souci. Mais derrière, il va falloir un marché de détail qui soit lui peut-être plus, en tout cas en phase avec la capacité des consommateurs, aussi bien les entreprises, les particuliers que les collectivités. Sinon, en fait, cette déconnexion aujourd'hui, si elle ne se met pas en place, on risque d'avoir vraiment des situations difficiles. On entend tous les jours des entreprises qui disent bah, « je vais peut-être arrêter de produire parce que de toute façon, à ce prix de l'énergie, ça passe pas. » Les particuliers, on va avoir de la précarité énergétique qui va se développer. Moi, ça fait partie de ma grande crainte pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Quand les factures vont être moins protégées puisque le bouclier tarifaire va être moins fort, on va avoir des situations compliquées dans certaines familles. Et du côté des collectivités, d'ores et déjà, il y aura des collectivités qui vont devoir mettre toutes leurs réserves, leurs économies dans le paiement des factures d'énergie et donc n'auront plus de capacité à investir et donc plus de capacité à faire des travaux sur les routes, sur les bâtiments, et donc plus de capacité à faire tourner l'économie. Donc attention, grande fragilité là, globale, entreprises, particuliers collectivités.
Alors sur les entreprises, effectivement, Dominique Ramard, on l'entend, hein, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le cas en Bretagne, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, des entreprises du nord de la France qui ont décidé de mettre leurs salariés au chômage technique pour une période donnée, justement parce qu'elles sont grandes consommatrices d'énergie et qu'elles ne peuvent plus faire face à des factures qui se sont envolées. Pour les particuliers, on voit aussi, permettez-moi le terme, une grande tension, on voit aussi qu'il y a beaucoup de colère, surtout parmi les plus précaires qui se disent, voilà, on fait des efforts, on n'a pas forcément les moyens de faire des efforts, mais on paie notre gaz, notre électricité très cher, en plus notre carburant très cher. Voilà, il y a une conjonction qui est quand même très importante, là, au niveau social. Alors, on rentre un petit peu dans la politique. Est-ce que, par exemple, les mesures mises en place par le gouvernement sont suffisantes, ou est-ce que vous estimez qu'il faut aller un petit cran plus loin ?
L'inflation, elle est globale. On parle des prix de l'énergie, ça explique à peu près la moitié de la hausse des prix donc, en France. L'autre moitié, c'est sur certaines matières premières, et notamment matières premières alimentaires. Donc, de fait, pour certains ménages, aussi bien que les factures d'énergie que pour l'accès à l'alimentation, on va avoir des tensions. Moi, je considère que, enfin, en France, si on compare par rapport à d'autres pays européens, globalement, l'amortissage de cette crise, il est plutôt assez conséquent. Les boucliers tarifaires, parce qu'en plus, il y a eu plusieurs mesures. Le fait de maintenir des tarifs régulés de vente, donc en électricité et puis en gaz, j'espère, au-delà de juin 2023, qui est la date normalement de fin de ces tarifs réglementés. En tout cas, ça a permis pour l'essentiel des ménages et même pour une partie des collectivités, voire des entreprises, de ne pas être touché par la hausse des prix de l'énergie, mais ça ne va pas suffire. Là, en fait, on va avoir vraiment des difficultés. Du côté des collectivités, là, je suis en première ligne. Du côté des particuliers, je commence à avoir quelques réactions de personnes qui me disent ça ne pourra pas passer. Et du côté des entreprises, on l'a entendu, notamment dans l'agroalimentaire, quand on sèche notamment du lait et donc il faut, pour faire de la poudre et qu'il faut beaucoup d'énergie, bah forcément, à un moment, ça risque de ne pas passer. Donc, je pense que déjà beaucoup a été fait, mais malheureusement, ça risque d'être pas suffisant. Alors, que faire de plus ? Moi, j'ai pas la science infuse hein, dans le domaine, mais je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à accompagner les ménages sur la réduction de leurs factures en rappelant les bons gestes. Voilà, faut faire la chasse au gaspillage des années 70-80, ça va devenir quelque chose d'obligatoire. Et après, je pense qu'il faut continuer donc, à accompagner les particuliers sur la rénovation des logements. C'est le principal poste de consommation d'énergie. Et donc, il faut absolument qu'on améliore la qualité des logements pour qu'ils consomment moins. L'autre aspect important, la mobilité. Donc là, les prix des carburants, de toute façon, on va, après l'électricité ou le gaz cher, il y aura aussi le pétrole cher. Donc moi, je préfère le dire maintenant, il va falloir qu'on change nos façons de se mouvoir. C'est pas facile parce qu'on a pris tellement l'habitude d'être dans notre voiture perso et d'aller au boulot, faire les courses assez loin. Là aussi, je pense qu'il y aura une forme de relocalisation, une forme de... il y aura un besoin de toute façon de changer nos pratiques de mobilité.
Ça veut dire aussi des investissements. On pense à une région comme la Bretagne qui a beaucoup mise beaucoup sur le ferroviaire, sur le transport doux. Hein. Alors évidemment, on peut pas toujours aller en vélo. Si on travaille de l'autre côté du département, c'est pas simple. Mais est-ce que ça va vouloir dire aussi des investissements, et c'est pas facile dans la période actuelle, on l'aura compris, pour favoriser ces mobilités ou pour favoriser d'autres énergies. Parce qu'on parlait de l'électricité, mais si tout le monde a une voiture électrique, ça va poser problème aussi si tout le monde demande de l'électricité pour sa voiture.
Oui, sur la mobilité, on va aussi vers un mix. Hein. On aura électricité, on aura le biogaz. Hein. C'est pour ça que le syndicat départemental d'énergie développe cette énergie, notamment pour les transports de marchandises. Mais par exemple, la station de Quévert qu'on ouvrira, qui a ouvert hier, pardon, et donc qu'on inaugurera le 18 octobre, cette station, elle permettra de faire tourner des bus, des camions qui transportent des marchandises, et puis aussi des bennes ménagères, ni dans agglomération et partenaires, et donc ça nous permettra aussi de changer donc cette mobilité. On va passer du gasoil au gaz et même au biogaz très prochainement.
Mais faut faire évoluer aussi les mentalités.
Oui, et en fait je pense que la transition énergétique, on parlait de transition parce qu'il fallait un terme doux. En gros, on se dit on va y aller progressivement. Moi, j'étais vraiment un partisan de cette progressivité. Malheureusement, là, on va rentrer dans le dur. Il y aura des situations compliquées, et donc c'est à nous aussi en tant que élu, en tant que collectivité, d'accompagner donc ces transitions, ces ruptures, ces bascules un peu plus compliquées. Sur la mobilité, par exemple, aujourd'hui, on a pris de telles habitudes que malheureusement, moi, je ne vois pas comment on va passer d'un système à un autre, en tout cas un système plus vertueux, moins consommateur. Mmh. Parce que les transports en commun n'existent pas partout. Même, ils seraient très coûteux à mettre en place en milieu rural. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir changer nos habitudes. Et donc là, c'est un accompagnement presque culturel qu'il va nous falloir.
Parce que pour acheter une voiture électrique, par exemple, bon, ça coûte quand même, c'est un investissement. Bon, il y a quelques aides, elles sont là, évidemment, on va pas le nier. Mmh. Mais pour un ménage précaire, c'est difficile d'acheter une voiture électrique.
Oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'on va changer son véhicule diesel pour prendre une voiture électrique ou même une voiture au gaz. C'est qu'on va devoir changer même de type de voiture. C'est la fin de la grosse bagnole. Hein. Mmh. Enfin, c'est un peu caricatural aussi que de parler comme ça. Mais en fait, avoir une voiture moins lourde, c'est déjà, ça permet de moins consommer. Et puis après, l'autre aspect, c'est que ben, effectivement, quand on va se déplacer, on n'ira pas donc faire 15 bornes pour chercher une baguette. Voilà, mais non, malheureusement, il y avait cette habitude, elle était prise. Aujourd'hui, ben voilà, les commerces locaux, il va falloir sans doute qu'on les redéveloppe pour pouvoir aller à pied ou en vélo chercher donc dans les petits bourgs ruraux comme dans ma commune et donc faire marcher ces commerces. Et après, quand on aura besoin d'aller à Dinan, quand on est à Saint-Juvat, eh ben on y va une bonne fois pour toutes et on a mis la liste de tout ce qu'il faut faire et on fera des économies comme ça. Voilà, mais c'est pas un retour en arrière. C'est juste que dans un contexte où l'énergie va être plus rare, plus chère, bah forcément, on va devoir nous adapter. Et ça peut se faire dans la convivialité, ça peut se faire aussi de manière collective. Voilà, nos petites communes rurales, elles ont plein d'atouts pour qu'en fait, on trouve des solutions ensemble.
Je le confirme et je vais chercher ma baguette ou mon pain à pied.
Bravo.
Voilà, je n'ai plus de vélo, mais bon, j'y vais à pied. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. J'ai une petite voiture. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Merci en tout cas, Dominique Ramard. Il nous manque du temps hein, pour développer, mais vous reviendrez pour en parler de ce problème ou de ces problèmes de l'énergie qui vont être importants. Mais voilà, il y a des solutions qui existent. Il ne s'agit pas évidemment de noircir le tableau. Dominique Ramard, président du syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor, maire de Saint-Juvat, très jolie commune, très fleurie, voilà, qui fait des efforts aussi pour que bien tout le monde soit bien dans sa commune. Et ce n'est pas la seule, je le confirme. Merci beaucoup d'être venu au micro de Bretagne 5 ce matin.
Merci à vous.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.